Donc ce matin, je vais poursuivre. La fois passée, on avait introduit sur les Lamentations de Jérémie en tant que livre, sa place dans la Bible, sa place également dans la tradition à la fois hébraïque, mais aussi chrétienne. On en a parlé, je pense que ça ne servira à rien de reprendre cela. J'ai parlé de son contexte historique et le contexte littéraire, puisque vous savez que nous, les évangéliques, je dis nous, c'est pas comme ça qu'il faut dire, les chrétiens évangéliques ont une approche de la Bible qui tient compte du contexte à la fois historique et littéraire. Parce que pour nous, les mots ont la force, la parole. La parole, ça se dit avec des mots. Et donc les mots ont du sens, ont une force. Et il faut les analyser, il faut les comprendre. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein, quand on parle d'un âne, on ne va pas commencer à parler d'un mulet. Par exemple, c'est un exemple. Voilà, hein, on ne peut pas interpréter, on parle d'une colline et vous parlez d'une montagne. Ce n'est pas la même chose. Donc, les mots ont leur importance. Mais nous parlons aussi des mots situés dans un contexte historique. L'histoire a du sens aussi. Parce qu'il y a tel mot qui se dit à telle époque d'une certaine façon. Vous savez que protester au XVIe siècle ne voulait vraiment pas du tout dire protester aujourd'hui. Vous savez ça? De sorte que les protestants que nous sommes, au départ, ce n'est pas ce que les gens croient que nous sommes. Moi, souvent, dans mes élèves ou les autres profs me disent « Oui, mais vous, c'est votre travail de protester. » Parce qu'aujourd'hui, protester, ça veut dire contester, se fâcher, dire « Écoutez, non, non, on n'est pas d'accord avec ça. » Mais protester au XVIe siècle, dans ce français-là qui était encore le François, peut-être encore, que je ne sais pas si c'était déjà le François ou pas, mais c'était pas, ça ne voulait pas dire cela. Protester, c'était affirmer avec des arguments une vérité. Protestare, en latin. Vous voyez comme quoi, alors si par exemple, la Bible parle de protestants, et que vous vous retrouvez dans la période du Pentateuque, bien avant là, et on parle de protestants, et vous pensez que c'est protestant comme nous aujourd'hui, vous faites erreur. Et donc, dans votre interprétation, vous allez interpréter de manière erronée. C'est pour ça que le contexte, à la fois littéraire, mais le contexte historique est important. J'en ai parlé. Donc maintenant, j'ai proposé que on lise le livre de Lamentation et qu'on ne regarde pas à... On va pas lire, on va pas diviser en points, en parties du texte. J'ai proposé que plutôt, au lieu de faire ça, plutôt on regarde sur quels sont les trois grands sujets, thèmes les plus importants de ce livre. Et nous allons justement aborder ça sous cet angle-là. Il y a trois thèmes importants qui se dégagent de ce livre. Premier thème que j'avais proposé, c'était le jugement de Dieu. Deuxième thème, c'était la repentance. Et le troisième thème, c'est le caractère de Dieu. Ce sont les trois choses qu'on va aborder à travers ce texte. Mais il faut passer par cet exercice pour vous mettre en situation. Il faut passer par l'exercice de lire le texte. Donc je vais le lire dans les 22 versets. Souvenez-vous, il y a 5 chapitres et les 4 chapitres ont chacun 22 versets. Et je vous avais expliqué pourquoi. Les 22, parce que chaque verset commence avec une lettre de l'alphabet hébraïque. Ok ? Aleph, Bet, Gimel, etc. Gimel jusqu'à Tav, la dernière lettre hébraïque. Donc, chaque verset commençait avec ça. Mais le chapitre 3 en a 66. Donc, chaque fois, trois fois 22, lettre de l'alphabet qui commence. Pourquoi le troisième chapitre a autant? C'est parce que c'est le point culminant. Si vous dessinez, vous faites un dessin, vous allez voir que le chapitre 3 est finalement, c'est vraiment le point culminant de tout le livre. C'est lui qui donne finalement le but, le sens à l'ensemble. Enfin, on le verra quand on arrivera là. Parlons d'abord aujourd'hui du jugement de Dieu. Et je propose qu'on lise d'abord rapidement tous les 22 versets. Donc, suivons la lecture et puis je vais prier et pour commencer. Et quoi ? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion, sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que te dire? Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi? De quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là la ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche. Et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi. Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes yeux, tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse? Que les sacrificateurs et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur. Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Prions. Notre Dieu, notre Père, Dieu du jugement, nous invoquons ton nom maintenant pour nous enseigner, afin que nous aussi, nous soyons avertis, aguerris et soyons rendus sages par ta parole. Béni sois-tu au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Spectacle, n'est-ce pas, impressionnant, je dirais presque désolant. C'est une scène incroyable. Ah, voilà, je cherche le bon texte et le bon texte s'enfouit. Alors, c'est celui-là alors. Alors, je vais développer ce texte à partir de ce thème, d'un de ces thèmes importants de ce livre, à savoir le jugement de Dieu. Peut-être que vous êtes au clair avec la question du jugement de Dieu. Peut-être pas. Ce matin, j'aimerais peut-être d'abord, avant de parler du jugement, planter le décor. Le décor de la royauté de Dieu. Dieu règne et il fait toutes choses. Dieu contrôle l'histoire et le cours des événements. Il exerce sa royauté à travers son gouvernement. Dieu a un gouvernement. Il est assis sur son trône. Le trône dans l'Ancien Testament, le trône dans l'Antiquité, ne symbolisait pas seulement le fait d'avoir une position. Le trône symbolisait l'exercice du pouvoir. Vous remarquerez que la plupart des rois anciens, avant de commencer à décider des grandes choses, ils s'asseyaient d'abord sur le trône. Et quand ils étaient assis, ce qu'ils disaient de là où ils étaient, avait force de loi pour tout le peuple. Dieu exerce son gouvernement assis sur son trône. Comme dans tout royaume, Dieu a établi des lois. Il a établi des règles qui doivent s'appliquer à tous, sans distinction. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu a assorti ces lois des sanctions. Si vous faites ceci, il y aura cela. Si vous agissez de telle manière, je vous sanctionnerai de telle façon. Si vous faites en bien ceci, je vous bénirai de telle manière. Comme tout gouvernement, il y a des lois, et comme dans toutes les lois, il y a des lois qui a la contrainte forcée, la possibilité de pouvoir sanctionner ceux qui transgressent la loi. C'est la même chose avec Dieu. En tant que roi, Dieu exerce la justice. Il a le monopole de la justice. C'est lui qui juge. Dans l'Ancien Testament, dans le temps, c'était comme ça. Maintenant, nous avons un principe de séparation de pouvoir avec un pouvoir judiciaire qui est, entre guillemets, indépendant. Mais dans le temps, quand il y avait des problèmes de justice, c'était le roi ou son délégué qui réglait ça. Dieu exerce la justice, c'est-à-dire le droit de se prononcer selon la loi. Et j'aimerais peut-être, pour situer qui est Dieu, peut-être prendre ce texte d'Ésaïe. J'aime bien ce texte parce qu'il est impressionnant par la façon dont Dieu parle de lui. Ésaïe, chapitre 44, versets 6 à 8. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. » Il plante les décors. « Je suis le roi. » Le roi d'Israël est son rédempteur. L'Éternel des armées... Excusez-moi, je dois reprendre la phrase. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas. Vous êtes mes témoins. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autre rocher. Je n'en ai point connu. Dieu est roi. Il règne et il est puissant. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est une affirmation que Dieu donne. Jacques, le frère de Jésus, dans son épître, dit aussi l'idée que Dieu est le seul juge et législateur. Jacques dit, Jacques 4:12, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Un seul est juge et législateur. Il n'y a que Dieu pour faire la loi. Un législateur, c'est celui qui élabore les lois. C'est celui qui fait les lois. Entre parenthèses, celui qui les défait aussi. Il les fait et les défait. Okay? Et c'est le seul. Et c'est celui le seul qui a le droit d'exercer la justice. Et donc, de faire des jugements. Dieu est donc un Dieu de jugement. Et c'est un élément qui nous échappe souvent. Nous regardons le Dieu comme étant toujours le bon Dieu, celui qui est toujours gentil, celui qui ferme les yeux devant nos bêtises, et c'est tout. Mais Dieu est aussi, en tant que roi, en tant que Seigneur, en tant que Dieu, c'est aussi le Dieu qui exerce le jugement. Et vous savez qu'une des raisons majeures, bibliquement parlant, pour laquelle Dieu exerce le jugement, c'est parce qu'il est saint et juste. Il ne peut pas tolérer le péché, il ne peut pas tolérer les choses abominables devant ses yeux. Nous, on se situe souvent entre un Dieu lointain, arbitraire et irascible, et un bon Dieu. Un Dieu trop bon pour nous laisser faire tout ce qu'on veut. La réalité, c'est que Dieu, il est lent à la colère. Ça veut dire qu'il est quand même, il peut entrer en colère. Il vient peut-être lentement, mais il peut rentrer en colère. Il est lent à la colère, et nous avons lu dans le texte, dans l'autre texte, dans les psaumes 145, riche en bonté, plein de bonté. La réalité, c'est que Dieu est celui qui fait grâce. Mais la grâce que Dieu nous accorde ne doit pas donner lieu à du laisser aller dans notre vie. La grâce que Dieu nous fait ne doit pas nous donner l'occasion de faire n'importe quoi. C'est que je dis, c'est la Bible qui le dit aussi. C'est une chose qui constitue une tension permanente dans la vie du chrétien. Vous savez la discussion sur la justification par la foi. Vous vous souvenez, on en a parlé. C'est une tension permanente chez les chrétiens. Je suis sauvé. Tout m'est permis. Je suis sauvé. Je peux vivre ma vie comme je veux. Est-ce que c'est totalement juste? Non. Non. J'ai aussi à vivre une vie qui témoigne de Dieu. Mais en même temps, cette vie que je témoigne là, je ne dois pas la vivre d'une manière comme si c'était des lois. Puisque Dieu a dit, dans la nouvelle alliance, j'enlèverai leur cœur de pierre. C'est qu'il dit, non. Je mettrai mes lois à l'intérieur d'eux. Personne ne dira plus à l'autre, tu dois aller faire ceci ou cela. Ça veut dire que l'élan d'obéissance et de soumission à Dieu ne doit pas venir parce que nous avons une massue sur notre tête qui va nous imposer ça. Mais l'élan doit venir de notre cœur parce que nous aimons Dieu, parce qu'il a de la valeur pour nous, parce que nous voulons lui faire plaisir, comme lui l'a fait, comme il en fait plaisir. Et c'est une tension permanente qui crée beaucoup de problèmes. Peut-être que ça serait, si vous me prenez à côté, je peux expliquer ça en détail, peut-être dans une prédication, c'est difficile, mais c'est une tension dans beaucoup d'églises, et c'est une source de sectes aussi, de sectarisme dans beaucoup chez beaucoup d'églises aussi. Parce que cette tension permanente entre la grâce de Dieu qui nous donne à vivre notre vie comme on veut, et puis la sainteté de Dieu qui exige de nous une consécration, un sérieux dans notre vie, une manière de vivre qui soit intègre, sérieuse. Ça fait une tension terrible. Et le chrétien le plus équilibré, celui qui trouve la réconciliation entre les deux. Enfin bref, je vois que le temps avance et je vois que je n'ai pas perdu la mauvaise habitude d'être bavard. Mais pourquoi est-ce que Dieu a condamné son peuple? Pourquoi Dieu exerce-t-il ce jugement sur son peuple? Vous le savez, c'est parce que le peuple a désobéi, Dieu a averti, et a averti depuis longtemps qu'il allait frapper la ville et frapper son peuple s'il lui désobéissait. Mais le peuple a continué à désobéir et Dieu a frappé. C'est la loi de Dieu. Dieu a agi selon la loi. Ici, dans le livre de Lamentations, il est clair que ce n'est pas l'ennemi qui est venu les envahir qui est celui qui... C'est pas lui la cause de leur malheur. Vous avez compris dans le texte qu'on a lu, la cause de leur malheur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui les a punis. C'est Dieu qui les a châtiés. Nous allons aborder trois choses, je vois comme le temps passe. Trois petits points, rapidement. Je vais décrire un peu en quoi consiste ce cauchemar, en quoi consiste ce jugement de Dieu. Dans les 11 premiers versets, nous voyons que le jugement est l'expression de la colère de Dieu. On dit bien que Dieu agit par colère. Il est furieux, il est fâché, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que le peuple n'a pas écouté. Non seulement il n'a pas obéi, mais il n'a pas écouté les avertissements. Et plusieurs fois, Dieu a averti. Mais le peuple n'a pas entendu et tenu compte des avertissements de Dieu. Et vous remarquez le spectacle, ce texte nous parle d'un nuage. Un nuage sombre dans les relations entre le peuple et Dieu. Dieu est en colère, cela s'exprime avec comme un sentiment de nuage sombre. Dieu détruit tout ce qui fait la fierté du peuple d'Israël. Vous avez remarqué ça? Il détruit tout. Il détruit l'arche. Il détruit le sanctuaire. Il détruit la beauté de la ville, toute l'architecture. Il détruit les sacrificateurs. Il détruit les prophètes. Il détruit le roi. Il détruit tout. Tout. Il met tout à mal. Tout à sac. Dieu est sans pitié. Dieu montre par là quoi? Que j'étais votre sécurité. J'étais votre protecteur. Vous ne m'avez pas obéi, je retire ma protection. Je retire ma sécurité. Je retire mes bénédictions. Vous avez quoi? Qu'est-ce qui reste? Un tas de fumée et de ruines. Dieu devient même l'ennemi de son peuple. Verset 5. Christophe. Verset 5. Dieu devient même l'ennemi de son peuple. As-tu au verset 6 là? Ah, peut-être 6, c'est ça? Ouais, parce que je vous dis, ça c'est quoi ça? Ah, mais non, ça c'est Jean. On revient au texte. Lamentation. C'est peut-être moi qui t'ai mal orienté, peut-être. Voyez, verset 5. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais. Dieu est en colère. Dieu devient l'ennemi de son peuple. Il ne veut même plus de conciliation. Il ne veut même plus quelqu'un qui puisse lui dire « Calme-toi Seigneur, s'il te plaît ». Il ne veut pas. Il ne veut plus discuter avec qui que ce soit. Il est vraiment en colère. C'est impressionnant. Verset 8. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la ville, la fille de Sion. Il avait résolu dans son cœur de frapper. J'étais même frappé par le fait qu'il a même détruit la tente de la rencontre. Vous imaginez? Vous vous souvenez de la tente de la rencontre? Dans Exode, lorsque Dieu se fâche contre le peuple à cause du veau d'or, Dieu dit, moi, je ne fais plus mon palais ici. Par contre, je vous fais la grâce de me rencontrer. Je viendrai dans la tente de rencontre. Je ne reste plus tout le temps avec vous, parce que vous êtes un peuple pécheur, etc. Mais je viendrai me rencontrer avec vous à travers Moïse. Et même cette tente de la rencontre, il a détruit. Dieu est en colère. Mes amis, c'est une horreur. C'est une situation horrible. Est-ce que vous êtes-vous imaginé déjà Dieu comme ça? Levez la main ceux qui sont déjà imaginé Dieu comme ça. Personne. Toi? Ah, ouf, quand même. Non, pas toi, d'accord. C'est une horreur, hein, d'imaginer Dieu comme ça. Hein. Pourtant, Dieu peut être comme ça. Ça veut dire pour nous un bel avertissement. C'est un avertissement. C'est le même Dieu pourtant. Le Dieu qui est amour, qui est justice, qui est vérité, qui est grâce. C'est le même Dieu. Pourtant, il ne rigole plus. Hein. Et il ne veut plus que quelqu'un vienne lui parler. Hein. Il a décidé dans son cœur, il a fait, point barre. Tout cassé, tout détruit. Il ne reste plus rien. Vous avez lu, ils commencent même à se manger entre eux. Hein, tellement ils avaient faim. Hein. Les mamans qui voient leur enfant mourir en les tenant à la main. Vous imaginez un peu ça? Dieu est un Dieu redoutable. Il est redoutable et c'est pour ça que je plains les ennemis de Dieu. Je les plains parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Qu'est-ce que ce texte nous invite? Il nous invite à tenir compte des avertissements de Dieu. Quand Dieu nous dit, attention au péché, arrête ce que tu fais, arrête la sale vie que tu vis, arrête de mentir, arrête de vivre comme ça, arrête de critiquer les autres, arrête de haïr, arrête de voler, de tricher, de faire, arrête! Parfois, on écoute une fois, on obéit et on met les choses en ordre. Quand j'étais jeune, j'ai vécu quelque chose de personnel qui m'a fait découvrir que Dieu était comme ça. Pendant une semaine, j'ai senti la colère de Dieu sur moi. Mes amis, ce n'est pas rigolo. Je croyais que j'allais en enfer. Moi, je croyais que c'était fini et même l'enfer n'était pas un lieu de repos. Le nombre de fois que j'ai demandé pardon à Dieu, je ne sais pas c'est combien de fois. Le nombre de fois que j'ai... Je ne sais pas combien de fois. Et depuis ce jour-là, vous savez, mes amis, quand, par la grâce de Dieu, après avoir prié, j'ai ressenti vraiment la paix et Dieu a vraiment donné des confirmations de son pardon. Depuis ce jour-là, moi, le péché, je fais attention, beaucoup attention. Je reconnais que j'ai des faiblesses. Ça peut m'arriver d'avoir des faiblesses, mais je me bats jusqu'à ce que ces faiblesses disparaissent parce que je connais Dieu. Cela donc doit nous pousser à avoir le respect de Dieu, la crainte de l'Éternel. Dieu avertit. Deuxième chose, heureusement, le jugement dont on parle ici a un caractère particulier. Ça, c'est le deuxième point, rapidement aussi. Le jugement, vous savez que les jugements de Dieu dans la Bible sont de différentes sortes. Il y a des jugements implacables. Le jugement, c'est terminé, un peu comme le Terminator, là, il vient pour terminer l'affaire, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça, c'est comme par exemple, vous savez, Sodome et Gomorre. Ils sont disparus, et même jusqu'à l'archéologie historique ne retrouve plus cet endroit-là. Je ne sais pas où c'était. Ça, c'est le jugement de Dieu. Il vient, il détruit tout, et c'est fini. C'est terminé, on n'en parle plus. Ça, c'est une sorte de jugement. C'est le jugement qui sera réservé à Satan et à tous ceux qui auront désobéi à Dieu à la fin des temps. Ils seront enchaînés pour toujours. Ça sera un endroit où ceux qui n'ont pas accepté Jésus vont gémir pour l'éternité. Waouh, c'est horrible. Donc, il y a des jugements comme des condamnations définitives, mais il y a des jugements comme... Un autre exemple, c'est le déluge, évidemment. Ça, c'est aussi une forme de jugement où cette ancienne terre-là n'existe plus. Hein. La terre qui est revenue après, c'est autre chose. Ce n'est plus la même terre qu'à la création. Enfin, qui était au temps de la création. Mais il y a un autre type de jugement. C'est le type de jugement où Dieu punit, il châtie. C'est une punition. Ok, c'est un châtiment. C'est le cas ici. Et c'est ça ce caractère particulier. C'est que ce n'est pas un jugement sans appel. Ce n'est pas une condamnation définitive. C'est une punition. C'est un châtiment. Une punition sévère, bien sûr. Dieu punit sévèrement. Il y a d'autres jugements de Dieu. Vous savez que nous, chrétiens, nous allons devoir apparaître devant le tribunal de Dieu. Vous saviez ça? Mais ça ne sera pas pour aller en enfer. Ça sera pour évaluer ce que nous avons fait et recevoir la couronne, en tout cas les félicitations du maître, etc. Ça ne sera plus pour nous mettre de l'autre côté, mais ça sera dans la maison de Dieu. Mais Dieu va quand même nous demander des comptes. Vous voyez ça? Le jugement peut avoir plusieurs formes. Mais ici, il s'agit d'un jugement en termes de châtiment. C'est un châtiment extrême, à la hauteur de la colère de Dieu. Et ce jugement va affecter Jérémie. Il va l'affecter tellement que Jérémie va entrer en deuil. Il va être malheureux. Jérémie, vous savez, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il a souffert terriblement. Jérémie a souffert parce que les rois étrangers le détestaient à cause de ses visions. Les rois d'Israël le détestaient à cause de ses visions. Le peuple le détestait à cause de ses visions. Ce gars... C'est qu'il a souffert, Jérémie, c'est incroyable. Et vous imaginez que ça, il savait que ça allait arriver. Il avait averti. Mais ils n'ont pas écouté. Mais voyez comment il pleure. À aucun moment, il va condamner le peuple. Cette fois, il se met dedans lui aussi. Il pleure le malheur de tout le monde. Il pleure au nom de tout le monde. C'est incroyable. Au lieu d'être là pour dire, les gars... Vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, c'est votre faute. Hein. Maintenant, c'est vous, hein, c'est votre faute. Hein. Voyez, hein. Non, il se met en solidarité avec eux. Waouh, quel homme, Jérémie. Il se lamente maintenant. Il se lamente de tout ce qui se passe. Il se lamente des erreurs et des fautes du peuple. Les erreurs et les fautes des dirigeants. Vous avez entendu? Il donnait des mauvaises visions, des fausses prophéties. C'est eux qui ont conduit le peuple à ne pas écouter les avertissements de Dieu. Ils ont mal joué leur rôle. Jérémie va quand même se lamenter de tout ça. Il va pleurer. Je ne vais pas revenir sur le texte parce qu'on va on risque de perdre du temps, mais il va se lamenter, il va pleurer pour cela. Voyez-vous, dans l'œuvre de Dieu, nous avons toujours quelqu'un qui est en mesure de pouvoir nous avertir. Il faut apprendre à nous écouter. Quelqu'un peut venir près de vous et vous dire des choses. Apprenons à écouter et à faire attention. Même un petit enfant, écoutons. Peut-être qu'il dit quelque chose de la part du Seigneur. Quelle leçon ici? Quelle interpellation? Voyez, cet aspect, malgré le fait que c'est du châtiment seulement et pas la destruction totale, ce qui nous interpelle ici, c'est la gravité du péché. Le péché est quelque chose de terrible, quelque chose qui est grave. Et péché exprès, c'est-à-dire avoir entendu les avertissements de Dieu et ne pas s'y soumettre, c'est quelque chose d'encore plus grave dans les conséquences. Troisième point. Vous remarquez une chose. Le peuple est dans l'impasse. Vous avez remarqué ça? Si l'ennemi vient nous détruire, on va crier à Dieu. Mais si c'est Dieu lui-même qui le fait, on fait quoi? On fait quoi? Si celui qui est censé me protéger me fait du tort, je fais quoi? Je suis dans l'impasse. Je suis dans l'impasse. Je peux avancer. Ça, c'est le troisième point, l'impasse. Dans lequel se trouve le peuple et le silence de Dieu. Ça vaut toute une prédication, ce troisième aspect, mais je vais essayer d'être court. Le peuple se retrouve dans une situation difficile. Dieu se tait. Il se tait complètement. Il fait peser un silence coupable, un silence qui fait sentir la culpabilité du peuple, qui fait sentir sa colère, le fait qu'il est mécontent de leur attitude. Et ce silence pèse sur le peuple. Mais de l'autre côté, le peuple va faire quoi ? On fait quoi ? On fait comment ? Quand j'ai tout gâché, j'ai tout foutu en l'air, j'ai gâché mes relations, j'ai gâché tout ce que j'avais avec les gens, et que c'est moi qui ai tout détruit, je fais quoi après ? J'arrange ça comment ? Surtout si les gens ne veulent pas que ça s'arrange. Je sais comment ? C'est là cette impasse dans laquelle se trouve le peuple de Dieu. Mais vous allez voir, dans cette impasse, malgré la charge de reproche, malgré la charge de la colère de Dieu, malgré ce silence, malgré tout ça, que fait Jérémie ? Que fait Jérémie ? Il va quand même encore invoquer Dieu. Il va quand même encore vers Dieu. J'imagine cette scène. Voyez un petit enfant. Un petit enfant à qui vous donnez une fessée, parce qu'il a mérité, hein. Il a fait des bêtises, vous lui donnez une fessée. Voyez l'enfant commence à pleurer. Et puis vous voyez, il va d'abord, il pleure, il cherche où est-ce qu'il va aller se consoler. Et puis il revient seulement vers vous. Dans vos bras. Pour pleurer dans vos bras. Parce qu'il ne sait pas où aller d'autre. C'est exactement ça. Jérémie sait qu'il n'y a pas d'autre endroit. Dans l'impasse, il n'y a que Dieu. Même si c'est lui qui est l'auteur de mon malheur, il n'y a que lui. Et Jérémie va faire le pas de venir vers Dieu. Il va exhorter le peuple à crier, à ne pas se donner du répit, à pleurer devant Dieu, ne pas s'arrêter, supplier Dieu. Seigneur, on a mal fait, mais c'est toi seulement qui peux nous sauver. Toi seul peux nous restaurer. Toi seul peux nous sortir de nos impasses, de nos bêtises. La main qui blesse est celle qui guérit. C'est dans la Bible aussi. J'aime bien cette image avec Job. Job va dire à ses amis, 6 fois l'Éternel a frappé, mais 7 fois il a guéri. 6 et 7. Je trouve ça fantastique. Qui peut faire ce type d'image ? Qui peut aller vers Dieu de cette façon-là ? Seulement quelqu'un qui connaît la bonté de Dieu. Vous comprenez ça ? Si quelqu'un ne connaît pas la bonté de Dieu, parabole des talents, cet homme qui est allé cacher son talent, il a dit, tu es un maître dur. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu es très... C'est pour ça que j'ai caché ça, pour ne pas avoir des problèmes avec toi. Cet homme-là ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Jérémie connaît Dieu. Il sait que par-delà les bêtises qu'ils ont faites, par-delà toute la colère de Dieu, il sait que Dieu va pardonner, Dieu va restaurer, Dieu va guérir, il le sait. Et donc, il va s'approcher de Dieu, parce qu'il sait que Dieu a des entrailles de miséricorde. Il ne tient pas sa colère à toujours, c'est pas un rancunier. Il va se fâcher un temps, mais après il pardonne. Et Jérémie le sait. Jérémie le sait. Et il vient vers Dieu pour ça. Quel enseignement pour nous, n'est-ce pas ? Dans nos impasses, alors que nous avons tout gâché, nous avons tout foutu en l'air, alors que nous savons que devant Dieu, notre conscience nous dit « Tu n'accepteras pas. Tu as trop fait de bêtises. » où allons-nous ? Nous nous jetons dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, dans la consolation d'autres choses, nous devenons addicts à quelque chose, il y en a qui vont s'enfermer chez eux à la maison, qui ne sortiront plus, ou bien on revient seulement là à la croix, au bas de la croix pour dire « Seigneur, je ne te cache rien, tu sais tout de moi et tu connais mes bêtises, alors pardonne, sauve. » Voilà quelques réflexions que je voulais partager. J'ai dû faire un peu du laminaire parce que je veux quand même vous faire plaisir pour que vous mangiez quand même à l'heure cet après-midi en retour de chez vous. Sinon, je pouvais vous retenir. Vous voyez que un texte peut-être de l'Ancien Testament peut être source de beaucoup de choses à dire et de beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir pour la réalité d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à nous enrichir de cela, à craindre son nom. Comment on dit encore, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dieu est un Dieu de jugement. Et quand il se lève pour juger, c'est implacable. Nos amis avec lesquels nous avons lu l'Apocalypse, nous avons vu, hein, n'est-ce pas, que Dieu ne blague pas, hein. Il est terrible dans sa manière de juger les choses. Et peut-être nous devons nous dire à nous, craignons Dieu. Et nous devons dire aussi aux gens du monde, vous savez pas, réconciliez-vous s'il vous plaît, faites vite, venez à Dieu, parce que vous savez pas ce qui va vous arriver plus tard. Prions.